Chapitre 23. Telle est l'erreur du pouvoir. Il ne s'exerce en définitive que dans un absolu, un univers limité. Mais la grande leçon de notre univers relativiste est que les choses changent. Tout pouvoir doit toujours affronter un pouvoir plus grand. Paul Muad'Dib enseigna cette leçon aux Sardaukars dans les plaines d'Arakine. Ses descendants ont encore à l'apprendre pour leur compte. Le prêcheur en Arakine. Le premier suppliant de l'audience du matin était un troubadour kadéchienne, un pèlerin du Hajj qui s'était fait vider sa bourse par des mercenaires de la cité. Immobile sur les dalles vertes d'eau, il ne semblait pas mendier une faveur. Deux trônes identiques avaient été mis en place sur la plateforme qui dominait la salle de ses 7 degrés. C'étaient les trônes de la mère et de la fille. Mais Jessica remarqua qu'Alia était placée à sa droite, ce qui correspondait à la position masculine. Jessica admirait l'air décidé du troubadour. Il était bien évident que les gens de Djavid ne l'avaient admis que pour cette qualité. Ils escomptaient que le troubadour distrairait les courtisans présents. C'était la seule forme de paiement qu'il pouvait assurer, puisqu'il n'avait plus d'argent. Selon le rapport du prêtre-avocat qui plaidait à présent le cas, le kadéchienne n'avait plus que son vêtement et la balisette qu'il portait sur l'épaule, maintenue par une lanière de cuir. Il déclare qu'on lui a fait absorber un breuvage sombre, disait l'avocat, réprimant difficilement un sourire. Qu'il n'en déplaise à votre sainteté, cette boisson l'aurait maintenu éveillé mais hors d'état de rien faire tandis qu'on lui prenait sa bourse. Jessica observa le troubadour tandis que l'avocat continuait de bourdonner son plaidoyer pétri de fausses soumissions, la bouche pleine de fausses morales. Le kadéchienne était grand. Il atteignait près de 2 mètres. Il avait un regard inquisiteur où elle lut de l'intelligence et de l'humour. Suivant la mode de sa planète, il portait ses cheveux blonds dorés longs jusqu'aux épaules. La robe grise du Hajj ne pouvait dissimuler la virilité de son corps élancé, de sa poitrine puissante. Il répondait au nom de Tagir Mohandis, et il était le descendant d'ingénieurs marchands. Il était fier de lui et de ses ancêtres. Alia interrompit le plaidoyer d'un simple geste et déclara sans détourner la tête « Dame Jessica, pour honorer son retour parmi nous, va rendre ce premier jugement. » « Merci, ma fille, » dit Jessica, mettant l'accent sur son ascendance afin que chacun entendît. Ma fille. Ainsi donc, ce Tagir Mohandis faisait partie de leur plan. Ou bien n'était-il qu'une dupe innocente? Ce jugement marquait l'ouverture des hostilités contre elle, se dit Jessica. L'attitude d'Alia le confirmait clairement. Sais-tu bien jouer de cet instrument? Demanda-t-elle en désignant la balisette à 9 cordes du troubadour. Aussi bien que le grand Gurney Halleck lui-même. Tagir Mohandis s'était exprimé d'une voix forte, à l'intention de toute l'audience, et il y eut quelques mouvements révélateurs parmi les courtisans. Tu es en quête de l'argent nécessaire à ton voyage, dit Jessica. Où te conduira-t-il? Jusqu'à Saloussa Secondus, à la cour de Faradin, dit-il. J'ai entendu dire qu'il recherchait des ménestrels et troubadours, qu'il encourage les arts et qu'il édifie une manière de renaissance et de nouvelle culture autour de lui. Jessica se retint de regarder Alia. Ils savaient tous, bien sûr, ce que Mohandis demanderait. Mais cette comédie lui plaisait. La croyait-il incapable de parer le coup? « Voudrais-tu jouer pour payer ton passage ? » demanda-t-elle. Mes conditions sont à la manière Fremen. Si ta musique me plaît, je pourrai te garder ici pour apaiser mes soucis. Si elle offense mes oreilles, je pourrai t'envoyer gagner l'argent de ton voyage dans le désert. Mais si je juge que ta façon de jouer puisse convenir à Faradin, qu'on dit un ennemi des Atréides, je t'enverrai à lui avec ma bénédiction. Veux-tu jouer selon ces conditions, Tagir Mohandis? Le troubadour rejeta la tête en arrière et partit d'un immense rire rauque. Ses cheveux blonds voltèrent tandis qu'il prenait sa balisette en main et l'accordait habilement, indiquant par là qu'il acceptait le marché. La foule voulut se rapprocher, mais elle fut maintenue à distance par les courtisans et les gardes. Mohandis pinça une note, éveillant et soutenant le chant grave des cordes sises sur le côté de la balisette, averti de leurs vibrations qui forçaient l'attention. Puis il chanta, d'une voix mélodieuse de ténor. Il était évident qu'il improvisait, mais le ton était si juste que Jessica tomba sous le charme avant de se concentrer sur les paroles. Tu dis pleurer Caladan et ses mères, où les Atreides autrefois régnèrent sans rémission. Mais les exilés sont en terre étrangère. Tu dis qu'en des heures amères, des hommes rudes ont vendu tes rêves de Shai-Hulud pour nourriture fade. Et les exilés vivent en terre étrangère. Tu fis pousser Arrakis infirme et rendis silencieux le passage du ver, et tu conclus ton temps. Tandis qu'exilés vivent en terre étrangère. Alia, toi qu'on nomme Kohan-Tin, l'esprit invisible qui chemine, jusqu'au moment de...
Assez !
Cria Alia. Elle se dressa à demi.
Je vais te faire Alia !
Jessica s'était exprimée avec suffisamment de force, ajustant sa voix afin d'éviter l'affrontement, tout en captivant l'attention de l'audience. C'était là un usage émérite de la voix, et tous ceux qui l'avaient entendue ne pouvaient que reconnaître une puissance parfaitement contrôlée dans cette démonstration. Alia s'était rencoignée dans son trône, et Jessica remarqua qu'elle ne montrait pas le moindre signe de contrariété. « Cela a également été prévu, se dit-elle. Très intéressant. »«
Ce premier jugement m'appartient, » rappela Jessica.
« Très bien. » acquiesça Alia d'une voix presque inaudible.
Voici un présent qui conviendrait à Faradine, dit Jessica. Sa langue a le tranchant du Chris. La saignée que cette langue pourrait administrer ferait du bien à notre cour, mais je préférerais qu'il la réserve à la maison de Corino.
Une vague légère de rire parcourut la salle. Alia souffla violemment.
Savez-vous de quoi il m'a traité?
Mais de rien, ma fille. Il n'a fait que rapporter ce qu'il a entendu comme tant d'autres dans les rues. On vous a surnommé la Kohan-Tin.
L'esprit femelle de la mort qui marche sans pied, grinça Alia.
Si vous écartez ceux dont les rapports sont exacts, remarqua Jessica d'une voix douce, il ne vous restera que ceux qui savent ce que vous voulez entendre. Pour moi, il n'est rien de plus toxique que de croupir dans la puanteur de ses propres reflets.
Elle put entendre les exclamations étouffées de ceux qui étaient proches de l'estrade. Elle concentra son attention sur Mohandis. Celui-ci demeurait silencieux, indifférent. Il semblait que n'importe quel jugement lui serait absolument étranger. C'était là, songea Jessica, le type d'homme que son duc aurait aimé avoir à ses côtés en des temps difficiles. Confiant en son propre jugement, mais acceptant ce qui en résultait, même la mort, sans maudire son destin. Pourquoi avait-il donc choisi d'agir ainsi?
Pourquoi as-tu chanté de telles paroles?
Demanda Jessica. Il leva la tête pour mieux se faire entendre.
J'ai entendu dire que les Atreides étaient gens d'honneur et qu'ils avaient l'esprit ouvert. Je voulais les mettre à l'épreuve, et ainsi, peut-être, demeurer ici à votre service, ce qui me donnerait le temps de retrouver mes voleurs et de disposer d'eux à ma manière.
« Il ose nous mettre à l'épreuve, » marmonna Alia.
« Pourquoi pas ?»
demanda Jessica. Elle sourit au troubadour pour lui signifier son assentiment. Il n'était venu dans cette salle que pour une autre aventure, un autre voyage dans son univers. Jessica éprouvait l'envie de l'attacher à son propre entourage, mais la réaction d'Alia ne présageait que le mal pour le brave Mohandis. Et puis... il y avait tous ces signes qui indiquaient nettement que c'était bien la conduite que l'on attendait de Dame Jessica, qu'elle prenne à son service un beau et brave troubadour, tout comme elle avait pris Gurney Halleck. Non, il valait mieux que Mohandis fût autorisé à poursuivre sa route, même si la pensée d'un tel présent entre les mains de Faradine était ulcérante.
« Qu'on l'envoie à Faradine, » dit Jessica.
«
veiller à ce qu'il reçoive l'argent de son passage et que sa langue aille donc tirer le sang de la maison de Corino. Nous verrons bien comment il survivra. »
Alia regarda fixement le sol avant d'esquisser un sourire tardif.
« Que la sagesse de Dame Jessica décide, » déclara-t-elle.
Et d'un geste, elle ordonna à Morandis de se retirer. « Cela ne s'est pas passé comme elle le désirait, » pensa Jessica. Mais certains détails de l'attitude d'Alia lui annonçaient une épreuve plus décisive. On amenait un nouveau suppliant.
Observant la réaction de sa fille, Jessica fut assaillie par les premiers doutes. Elle aurait besoin des enseignements de la leçon des jumeaux. Alia pouvait être l'abomination, mais elle était une prénée. Elle pouvait connaître sa mère aussi bien qu'elle se connaissait. Et elle ne pouvait méjuger de ses réactions dans cette affaire du troubadour.
Pourquoi a-t-elle donc monté cette confrontation ? Se demanda Jessica. Pour faire diversion ?
Elle n'avait plus le temps de réfléchir. Le second suppliant attendait, au bas des deux trônes, son avocat près de lui. C'était un Fremen, un vieil homme qui portait les marques d'un natif du désert sur son visage. Il n'était pas de très haute taille, mais son corps sec et nerveux et la longue dige d'acha d'ordinaire portée sur un distille lui conféraient une certaine majesté. La robe s'accordait à son visage long et étroit, à son nez d'aigle et au regard intense de ses yeux bleus d'Ibad. Il ne portait pas de distille et ne semblait pas être à son aise ainsi. La salle d'audience immense devait ressembler pour lui à l'air libre qui vole la précieuse humidité de la chair. Il avait rejeté à demi son capuchon et Jessica put voir qu'il portait le chignon kefia d'un naïb.
« Je suis Gadehan Al-Fali, » dit-il en posant un pied sur la première marche pour marquer son rang. « J'appartenais au commando de la mort de Muad Dib, et je suis ici pour un sujet qui concerne le désert. »
Alia ne se trahit que par un infime tressaillement. Le nom d'Al-Fali figurait au bas de la requête présentée par les tribus pour la réintégration de Jessica au sein du conseil.
Un sujet qui concerne le désert, pensa Jessica.
Gadehan Al-Fali avait parlé avant même que son avocat ait entamé sa plaidoirie. Par cette simple phrase Fremen, il venait de notifier à chacun qu'il allait s'ouvrir d'une affaire qui concernait Dune tout entière, et qu'il parlait nanti de l'autorité d'un Fedaikin qui avait risqué sa vie aux côtés de Paul Muad Dib. Jessica doutait qu'il se fût annoncé ainsi auprès de Javid ou de l'avocat général. Ce qui lui fut confirmé aussitôt. Un membre de la prêtrise accourait du fond de la salle, brandissant le chiffon noir de l'intercession.
« Mesdames, n'écoutez pas cet homme !» lança-t-il.
« Il est venu ici sous une fausse... » À l'instant où elle vit le prêtre, Jessica entrevit le geste d'Alia, à la limite de son champ visuel. Dans l'ancien langage de bataille des Atreides, la main de sa fille faisait le geste « Allez ». Sans chercher à savoir à qui ce signal pouvait s'adresser, elle réagit instinctivement. Elle se jeta violemment sur la gauche, entraînant le trône avec elle. Elle tomba et elle roula loin du trône à la seconde où il s'écrasait. Elle se redressa et perçut le claquement net d'un pistolet Mola, puis un autre. Elle courait déjà. Quelque chose frappa sa manche droite. Elle plongea dans la foule des courtisans et suppliants rassemblés sous le dais. D'un bref regard, elle constata qu'Alia n'avait pas fait un mouvement. Au sein de la foule, elle s'arrêta. Elle vit que Gadehan Al-Fali s'était jeté de l'autre côté du dais, mais son avocat était resté là où il se trouvait. Tout s'était déroulé avec la rapidité d'une embuscade, mais ceux qui se trouvaient dans la salle savait à quoi des réflexes entraînés auraient conduit quelqu'un pris par surprise. Alia, de même que l'avocat, était demeurée figée sur place. L'attention de Jessica fut attirée par un remous au centre de la salle. Elle se fraya un chemin dans la foule et vit alors quatre suppliants qui s'étaient emparés du prêtre. Le chiffon noir de l'intercession était tombé à ses pieds, révélant le pistolet Mola. Al-Fali devança Jessica, s'arrêta et regarda successivement le pistolet et le prêtre. Avec un cri de rage,
Il leva la main gauche, les doigts rigides, et frappa en Atchag. Les doigts de pierre atteignirent la gorge du prêtre et il s'effondra. Sans même un regard en arrière, le vieux Naïb se tourna vers le dais, une expression de fureur sur le visage.
« Talalela Nouboa !»
lança-t-il, plaçant les paumes de ses mains sur son front, puis les abaissant.
« Le Kadis As-Salaf ne permettra pas que je sois réduit au silence. Si je ne terrasse pas ceux qui interfèrent, d'autres le feront. »
« Il pense que c'était lui qui était visé, » se dit Jessica. Ses yeux se portèrent sur sa manche, et elle enfila un doigt dans le trou laissé par la fléchette Mola, empoisonnée sans doute. Les suppliants avaient lâché le prêtre. Le larynx écrasé, il était agité d'ultimes convulsions. Jessica désigna deux courtisans effrayés qui se trouvaient à sa gauche.
« Je veux que cet homme soit sauvé et soumis à la question. S'il meurt, vous mourrez aussi. »
Les deux courtisans hésitèrent, regardant désespérément vers le dais, et elle fit usage de la voix.
« Allez !»
Ils obéirent. Jessica se porta aux côtés d'Alphali.
« Ne soyez pas stupide, Naïb. C'était à moi qu'ils en voulaient, pas à vous. »
Quelques-uns parmi ceux qui les entouraient l'entendirent. Il y eut un silence stupéfait. Alphali leva les yeux sur le dais, sur le trône renversé et brisé, et sur Alia toujours immobile. La compréhension se fit jour sur ses traits, si clairement qu'un novice pouvait la lire.
« Fedaïkin, » dit Jessica,
lui rappelant le vieil attachement qu'il avait avec sa famille.
« Nous qui avons connu le feu, savons nous tenir dos à dos ?»«
Ayez confiance en moi, madame, »
dit-il, comprenant aussitôt. Il y eut un cri étouffé. Jessica pivota, et Alphali, accompagnant son mouvement, demeura rivée à son dos. Une femme frémène, vêtue dans le style excentrique de la cité, se redressait. Le prêtre gisait à ses pieds, et les deux courtisans étaient invisibles. La femme n'accorda pas le moindre regard à Jessica. D'une voix aiguë, elle entonna l'ancienne lamentation de son peuple, l'appel aux servants des 10 stilles de mort, à l'heure où l'eau d'un corps doit être recueillie dans la citerne tribale. C'était un appel incongru dans la bouche d'une femme ainsi vêtue. Mais Jessica sentait la marque des usages de jadis, aussi sûrement qu'elle voyait l'image vaine de la cité dans cette créature qui venait de tuer le prêtre pour assurer son silence.
Pourquoi s'être donné cette peine ?
Se demanda Jessica.
Il suffisait d'attendre qu'il meure d'asphyxie.
Ça avait été là un geste de désespoir, le signe d'une peur profonde. Alia se pencha en avant, le regard brillant, vigilant. Une femme élancée, portant les tresses nouées qui étaient l'insigne de la garde personnelle d'Alia, dépassa Jessica, se pencha brièvement sur le corps du prêtre, puis se redressant, annonça « Il est mort !»«
Qu'on l'enlève !»
ordonna Alia. Puis, faisant signe aux gardes qui se trouvaient en bas,
« Redressez le siège de Dame Jessica !»«
Tu vas donc essayer de sauver la face !» pensa Jessica. Alia pensait-elle vraiment que quelqu'un avait été dupe ? Alphali avait évoqué le Kadis As-Salaf, appelant sur lui la protection des saints-pères de la mythologie frémène. Mais ce n'était pas une organisation surnaturelle qui avait introduit le pistolet Mola dans ce lieu où aucune arme n'était tolérée. La seule explication était un complot de Javid et de ses gens, et l'impavidité d'Alia quant à sa propre existence ne plaidait pas pour son innocence. Le vieux Naïb se pencha sur l'épaule de Jessica.
« Acceptez mes excuses, madame. Nous, gens du désert, nous venons à vous car vous êtes notre ultime espoir. Nous comprenons maintenant que vous avez encore besoin de nous. »
« Le matricide ne sied pas, ma fille.
Les tribus entendront parler de cela, »
promit Alphali.
« Mais si je suis votre dernier espoir, »
demanda Jessica,
« pourquoi ne pas m'avoir approché à la convocation du Siege Taber ?»«
Stilgar ne l'aurait point permis. »«
Ah !»
se dit-elle, « c'est vrai, la règle des Naïbes. À Taber, la parole de Stilgar fait loi. On avait redressé le trône.
Alia fit signe à sa mère et déclara « Que tous aient connaissance de la mort de ce prêtre qui nous a trahis. Ceux qui me défient meurent !» Elle posa son regard sur Alphali. « Mes remerciements, Naïb. »
« C'était une erreur, »
grommela Alphali. Il regarda Jessica.
« Vous aviez raison. Ma colère nous a ôté quelqu'un que nous aurions dû interroger. Souvenez-vous de ces deux courtisans et de cette femme en robe bariolée, Fedaikin ?»
murmura Jessica.
« Je veux qu'ils soient soumis à la question. Ce sera fait. Si nous sortons d'ici vivants, venez, il faut jouer nos rôles. »
« Comme vous voudrez, madame. » Ensemble, ils revinrent vers le dais. Jessica regagna sa place auprès d'Alia et Alphali reprit la position du suppliant.
« Avançons, » dit Alia.
« Un instant, ma fille. »
Jessica leva le bras, montrant du doigt sa manche trouée.
« Cette agression était dirigée contre moi. Le projectile a failli m'atteindre alors même que je tombais. Vous remarquerez tous que le pistolet Mola ne se trouve plus ici. »
Elle tendit le doigt.
Qui l'a pris?
Il n'y eut pas de réponse.
Peut-être pourrait-on le chercher? Suggéra Jessica.
Absurde! S'exclama Alia. C'était moi qui étais...
Jessica se tourna à demi vers sa fille, leva la main gauche.
Quelqu'un dans cette salle a ce pistolet.
Ne crains-tu pas? C'est l'une de mes gardes qui l'a récupérée.
Alors qu'elle me l'amène, dit Jessica.
Elle l'a déjà emportée.
Comme c'est pratique.
Que voulez-vous dire?
Jessica se permit un sourire grinçant.
Ce que je veux dire que deux de tes gens avaient mission de sauver ce prêtre traître. Je les ai prévenus que s'ils venaient à mourir, ils mourraient aussi. Ils mourront.
Je l'interdis.
Jessica se contenta de hausser les épaules. Alia désigna Alphali.
Nous avons ici un brave Fedaikin. Notre discussion peut attendre.
Elle peut attendre éternellement,
dit Jessica, employant le langage Tchakopsa, afin que ses paroles prennent un double sens pour Alia. Qu'elle lui dise qu'aucun argument ne pouvait s'opposer à sa sentence de mort.
Nous verrons,
dit Alia. Elle se tourna de nouveau vers Alphali.
Pourquoi es-tu ici, Gadehan Alphali?
Pour voir la mère de Muad Dib,
dit le Naïb.
Ce qui reste des Fedaikin, de cette poignée de frères qui a servi son fils. Tous se sont unis et ont rassemblé leurs pauvres ressources afin que je puisse acheter mon passage aux gardiens avaricieux qui protègent les Atreides des réalités d'Arrakis.
Ce que les Fedaikin requièrent,
commença Alia,
il leur suffit de...
C'est moi qui l'ai venu voir, coupa Jessica. De quoi avez-vous désespérément besoin, Fedaikin?
Je parle au nom des Atreides ici, dit Alia.
Qu'est-ce? Silence, abomination meurtrière, cria Jessica. Tu as tenté de me faire tuer, ma fille. Je le dis pour que tous l'entendent. Tu ne peux faire tuer tous ceux qui se trouvent dans cette salle pour leur imposer silence, comme tu l'as fait pour ce prêtre. Oui, le coup que lui a porté le Naïb aurait pu le tuer, mais on aurait pu le sauver et l'interroger. Ton seul souci était de le faire taire. Proteste tant que tu voudras, ta culpabilité est inscrite dans chacun de tes actes.
Alia demeura dans un silence glacé, le visage blême. Jessica épia le jeu complexe des émotions sur le visage de sa fille. Puis elle surprit un mouvement affreusement familier de ses mains, une réaction inconsciente qui autrefois avait été la marque d'un ennemi mortel des Atreides. Les doigts d'Alia pianotaient selon un rythme précis. Deux fois le petit doigt, trois fois l'index, deux fois l'annulaire, une fois le petit doigt, deux fois l'annulaire, et la même chose à nouveau. Le vieux baron. Alia suivit le regard de sa mère, sa main s'immobilisa. Lorsque ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux de Jessica, elle y lut la terrible révélation. Un sourire méchant apparut sur ses lèvres.
« C'est ainsi que vous vous vengez de nous, » murmura Jessica.
« Êtes-vous devenue folle, mère ?» demanda Alia.
« Je préférerais cela, » dit Jessica.
Et elle songea. « Elle sait que je vais confirmer cela aux sœurs. Elle le sait. Elle peut même se douter que je vais le révéler aux Fremen et la faire soumettre au jugement de possession. Elle ne peut me laisser sortir vivante d'ici. »
« Notre courageux Fedaikin attend pendant que nous discutons, » dit Alia.
Jessica reporta son attention sur le vieux Naïb. Elle reprit tout son contrôle et demanda
« Ainsi, tu es venu me voir, Gadehan ?»«
Oui, madame. Nous, gens du désert, nous assistons à de terribles événements. Les petits faiseurs sortent du sable ainsi qu'il avait été dit dans les anciennes prophéties. » On ne peut plus trouver Shai-Hulud que dans les profondeurs du car vide. Nous avons abandonné notre ami, le désert.
Jessica jeta un coup d'œil à Alia qui lui fit signe de poursuivre. Elle observa la foule et lut la même inquiétude sur tous les visages. L'importance de la lutte entre la mère et la fille n'avait pas échappé à l'assistance qui se demandait pourquoi l'audience se poursuivait.
Gadehan. « Que signifie cette histoire à propos des petits faiseurs et de la rareté des vers des sables ?»«
Mère de l'humidité, » répondit-il en lui donnant son ancien titre Fremen. « Nous avons été prévenus de cela dans le Kitab Alibar. Nous t'implorons. Fais que l'on n'oublie pas qu'au jour de la mort de Muad'Dib, Arrakis a été livrée à elle-même. Nous ne pouvons abandonner le désert. »
ricana Alia.
La racaille superstitieuse du désert intérieur redoute la transformation écologique. Elle...
Je t'entends, Gadehan,
interrompit Jessica.
Si les vers s'en vont, l'épice s'en va. Si l'épice s'en va, avec quelle monnaie achèterons-nous notre vie?
Dans toute la salle, il y eut des exclamations de surprise. Des chuchotements qui revinrent en écho dans la chambre d'audience.
« Superstition absurde !»
s'exclama Alia avec un haussement d'épaule.
Alphali leva la main droite et désigna Alia.
« Je m'adresse à la mère de l'humidité, pas à la Kohantin. »
Alia demeura assise, mais ses deux mains se crispèrent sur les accoudoirs.
Alphali revint à Jessica.
Jadis, sur ce territoire, il ne poussait rien. Maintenant, il y a des plantes. Elles prolifèrent comme la vermine autour d'une blessure. Il y a eu des nuages et de la pluie le long de la ceinture de dunes. De la pluie, madame. Oh, précieuse mère de Muad'Dib. Le sommeil est le frère de la mort, de même que la pluie qui tombe sur la ceinture de dunes. Elle est notre mort à tous.
Nous ne faisons qu'exécuter ce que Liet Kynes et Muad'Dib lui-même nous ont enseigné,
intervint Alia.
Que signifie ce jargon superstitieux? Nous révérons les paroles de Liet Kynes qui nous a dit « Je souhaite voir cette planète prise dans un filet de plantes vertes. » Et il en sera ainsi.
Et que deviendront les vers et l'épice?
Demanda Jessica.
Il y aura toujours une espèce de désert. Les vers survivront.
Elle ment, pensa Jessica.
Oui,
mais pourquoi?
Aide-nous, mère de l'humidité, dit Alphali.
Avec le brusque sentiment d'une double vision, Jessica sentit sa conscience s'éveiller, projetée au loin par les paroles du vieux Naïb. C'était l'adab. La mémoire qui exige et s'impose. Elle ne l'avait pas appelée, mais ses sens étaient paralysés tandis que défilait la leçon du passé, dont elle était absolument prisonnière, tel un poisson pris au filet. Pourtant, l'exigence de l'adab, telle qu'elle l'éprouvait, était un moment de l'extrême humain dont chaque parcelle portait le souvenir de la création. Chaque élément de la mémoire leçon était réel, mais insubstantiel dans son changement constant. et Jessica savait que jamais elle n'avait été plus proche de l'expérience de prescience qui s'était abattue sur son fils. Alia a menti parce qu'elle est possédée par un esprit qui veut la destruction des Atreides. Elle est elle-même une première destruction. Ainsi, Alphali a dit la vérité. Les vers sont condamnés à disparaître si l'on ne modifie pas le cours de la transformation écologique. Sous la pression de la révélation, Jessica eut une image ralentie de la foule et chaque rôle lui devint apparent. Elle identifia ceux qui devaient veiller à ce qu'elle ne quitte pas vivante cette salle. Et le chemin qu'elle devait suivre pour leur échapper était une ligne lumineuse au centre de sa conscience. La confusion se répandait, l'un feignait de heurter l'autre, les groupes devenaient une mêlée. Mais elle vit aussi qu'elle n'échapperait à la grande salle que pour tomber en d'autres mains. Alia se souciait peu de faire d'elle une martyre, non. C'était la chose qui la possédait, qui n'avait pas ce souci. En cet instant de temps figé, Jessica choisit un chemin. Il fallait sauver le vieux Naïb et l'envoyer comme messager. Le tracé de la fuite était indélébile et tellement simple. Elle voyait des bouffons dont les yeux étaient protégés par des barricades, dont les épaules étaient roidies en une défense inamovible. Elle lisait chaque position sur la vaste carte du sol, comme une collision atropique arrachant autant de squelettes à la chair morte. Les corps, les vêtements, les visages étaient révélateurs d'enfers particuliers, de terreurs contenues, de souffles retenus. L'hameçon rutilant d'un bijou était un substitut d'armure. Les bouches étaient des jugements pleins d'absolu glacé. Et dans les prismes cathédrales érigés sous les sourcils, il y avait des sentiments religieux et élevés que le ventre rejetait. Dans ces forces qui se rassemblaient sur Arrakis, Jessica pouvait percevoir la dissolution. La voix d'Alphali avait été comme un signal d'istrance dans son âme. Elle avait éveillé une bête qui dormait au plus profond d'elle. En un clin d'œil, elle passa de l'Adab à l'univers du mouvement. Mais c'était un univers différent de celui qu'elle avait quitté la seconde auparavant. Alia s'apprêtait à prendre la parole et Jessica dit « Silence !» Puis elle reprit. « Il en est qui craignent que je sois revenue entièrement acquise aux sœurs. Mais depuis ce jour où dans le désert les Fremen nous firent don de la vie à mon fils et à moi, je suis restée Fremen. » Elle continua alors dans l'ancien langage. Car seuls ceux auxquels elles étaient destinées comprendraient ces paroles. Onsa Akaka Zeliman Aumas Lumen. Soutiens ton frère quand il en a besoin, qu'il soit ou non dans son droit. Elle obtint l'effet souhaité, les positions changèrent subtilement. Mais elle poursuivit sur le ton de la colère. Cet honnête Fremen, Gadean Alphali, est venu me dire ici ce que d'autres auraient dû me révéler. Nul ne peut le nier, la transformation écologique est devenue une tempête qui échappe à tout contrôle. Les confirmations silencieuses étaient évidentes à son regard. Et ma fille se repaît de ceci, poursuivit Jessica. Mektoub al-Mela, vous avez inscrit des blessures dans ma chair, et vous y avez écrit avec du sel. Pourquoi les Atreides ont-ils établi leur demeure ici? Parce que le Mohalata était naturel à leurs yeux. Pour eux, le gouvernement a toujours été une association de protection, le Mohalata tel que les Fremen l'ont toujours connu. Maintenant, regardez-la! Jessica désigna Alia. Seule, la nuit, elle rit devant le spectacle du mal qu'elle a fait. La production d'épices sera réduite à néant, au mieux à une fraction de ce qu'elle était au début. Et quand la nouvelle se répandra, nous aurons le monopole du produit le plus précieux dans tout l'univers, cria Alia. Nous aurons le monopole de l'enfer. À présent, vous savez, mère, dit lentement Alia, passant à l'ancien langage Tchakopsa, avec ses clapements et ses coups de glotte si complexes. Pensiez-vous qu'une petite fille du baron Harkonnen
ne saurait pas tirer profit de toutes les vies que vous avez répandues dans ma conscience avant même que je sois né? Lorsque je maudissais vos actes, il me suffisait de me demander ce que le baron aurait fait. Et il me répondait. Vous comprenez cela, chienne Atreide? Il me répondait, à moi!
Jessica reçut la charge de venin en même temps que la confirmation de ce qu'elle avait soupçonné. L'abomination. Alia avait été investie, possédée de l'intérieur par ce Kawit du mal, le baron Vladimir Harkonnen. C'était le baron lui-même qui s'exprimait par sa bouche, sans plus se soucier de révéler la vérité. Il voulait que Jessica voie sa vengeance, qu'elle comprenne que rien ne pourrait le chasser. « Et je devrais demeurer ici, impuissante ?» se dit-elle. Alors sur cette pensée, elle s'élança sur le chemin révélé par l'Adab en criant « Fedaikin, suivez-moi !» Il y avait 6 Fedaikin dans la salle. Et finalement, 5 parvinrent à la quitter avec elle.